Aujourd'hui, c'est Christian Jambet, le retour. Christian va s'attacher notamment à montrer le lien très déterminant entre cette philosophie islamique et Platon. Merci à toi, Christian.
Pourquoi la cité platonicienne et que vient faire une telle notion dans la perspective qui est la nôtre cette interrogation sur le « nous » aujourd'hui, et en particulier comment des philosophes qui, j'en dirai deux mots, ont tous une perspective et une problématisation de la réalité profondément liées à l'Antiquité grecque ou aussi à, disons, à des courants un peu postérieurs, mais qui ont tous en commun de n'être pas modernes. Comment une telle pensée peut-elle avoir encore le moindre intérêt pour essayer de comprendre le présent? Alors j'essaierai de montrer que au moins un aspect du présent exige que l'on se tourne vers les philosophes en islam, et cet aspect est lui-même composite, complexe. Il a une dimension politique. C'est pour ça que, bien sûr, je parlerai des modèles platoniciens de la cité. La dimension politique, on peut la résumer en une seule expression, c'est la conviction selon laquelle le savant est la seule autorité légitime. Cette conviction s'exprime pleinement dans la seule révolution, enfin de la révolution par excellence que l'on a vue se produire en islam dans une période récente, c'est-à-dire la révolution iranienne islamique en 1979, qui a mis au pouvoir des gens qui soutiennent que toute autorité politique ne peut être que l'autorité du savant. Ça, c'est l'aspect politique. Mais on verra aussi, c'est un autre aspect qui entre en contradiction avec le premier, que les modèles platoniciens nourrissent un partage entre religion du commun et religion du savant, un partage qui, alors, ne permet absolument pas à la politique de demeurer ce qu'elle pourrait passer pour être, c'est-à-dire la référence absolue. Et on verra que la référence même à Platon se divise selon qu'elle sert à justifier et à organiser une conception politique du monde, ou selon qu'elle permet, d'une certaine manière, de s'en évader, ou du moins de la relativiser en fonction de modèles du salut qui lui sont extérieurs. Alors, on peut, pour amorcer cette analyse, rappeler deux ou trois faits, même si je suis obligé de les rappeler un peu sèchement, de façon à un peu situer la question. D'abord, l'islam comme religion, je dis bien, entendu au sens de phénomène religieux, l'islam se caractérise par sa division interne et on peut dire par son éclatement quasi immédiat après la fin de l'époque historique de la prophétie de Mahomet. À peine Mahomet est-il mort que les musulmans, j'entends bien dans leur foi, pas simplement dans leur conviction temporelle, se sont divisés et restent divisés. La plus célèbre division est celle qui oppose le premier parti religieux de l'islam, quant à la datation, le parti par excellence, chia, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français les chiites. L'expression veut dire tout simplement le parti, sous-entendu le parti de la famille prophétique. La famille prophétique, c'est essentiellement la fille et le gendre du prophète, Fatima et Ali, et leurs descendants. Le premier groupe qui s'est lui-même reconnu sous cette appellation, immédiatement après la mort du prophète, revendique l'autorité légitime pour la seule famille du prophète, entendu que cette autorité ne se réduit pas à une autorité temporelle, mais doit être également une autorité spirituelle. Et en face, il y a eu tous les courants, sur lesquels je ne vais pas, m'attarder, qui ont été eux-mêmes opposés entre eux, les Khalidjites, les Sunnites, qui ont pris cette expression « Ahl Sunna », les gens de la Sunna et de la Jamara et du Rassemblement, pour se différencier des chiites, et on voit que ces divisions durent encore, bien sûr, de nos jours. Le deuxième état de fait que l'on doit rappeler, c'est que cet état de guerre civile, on peut dire de guerre civile spirituelle qui affecte l'islam, est toujours lié à la question de la légitimation d'un légitimation non pas simplement du pouvoir temporel, mais de l'autorité exégétique, intellectuelle, spirituelle et morale. Et la question de savoir, plus précisément, qui mérite d'être qualifié de Khalifatullah, lieu tenant de Dieu, tenant lieu de Dieu, expression qui est dans le Coran, mais qui, dans le Coran, désigne purement et simplement l'homme, l'homme en général. L'homme est Khalifatullah, lieutenant de Dieu sur la terre, c'est-à-dire qu'il représente l'autorité, le pouvoir divin dans la création matérielle terrestre. Alors, qui véritablement, quel est l'homme dont la perfection peut légitimer qu'il soit par excellence Khalifatullah? C'est vraiment ça la question transhistorique qui se pose en permanence en l'absence du prophète proprement dit. Le troisième fait que je veux rappeler, c'est que les philosophes, sans entrer justement dans l'histoire de la philosophie islamique, les philosophes ne se réduisent pas en nombre et en école à ceux qui ont été connus au Moyen-Âge latin comme tels, les falasifat ou l'islam, les philosophes de l'islam, c'est-à-dire, pour l'essentiel, d'ailleurs, des figures qu'on va évoquer, El-Farabi, ou le plus grand de tous, Avicenne, ou même le très très grand Averroès. Loin de là, la philosophie est une activité antérieure à ces grandes figures et postérieure à ces grandes figures. La courbe de l'histoire de la philosophie islamique va du IXe siècle à nos jours, et elle comprend des figures et des écoles qui débordent de très loin la simple reproduction ou traduction des philosophes anciens. Tout ceci étant dit, on peut peut-être alors préciser en quoi et pourquoi les modèles platoniciens ont une grande importance et même une importance herméneutique majeure pour essayer d'élucider la question du pouvoir, et en particulier du pouvoir de l'intellect et du savant. D'abord, Platon, Platon, comme d'autres philosophes anciens, Aristote, bien sûr, Empédocle, les présocratiques en général, les piliers de la sagesse, Platon est considéré par les penseurs de l'islam, et pas simplement les philosophes, comme un prophète. Ceci est absolument capital. Le divin Platon, comme il est appelé couramment, est un prophète, et un prophète en un sens précis. Non pas un prophète législateur, comme Moïse, comme Abraham, ou comme Mahomet, mais un prophète chargé de transmettre la sagesse. Il n'est pas venu avec un livre révélé, mais il est venu avec la sagesse, la hikmah, dont il est dit dans le Coran lui-même qu'elle est un apport divin qui accompagne toujours le livre. Donc le statut d'autorité de Platon est à la fois le statut d'un philosophe, d'un sage et d'un prophète. Ensuite, la reprise du platonisme, dont je vais donner une première représentation concrète chez Farabi, la reprise du platonisme, et le modèle platonicien de la cité répond à un état de fait que j'ai mentionné plus haut, et qui est la guerre civile. L'école de Bagdad au Xe siècle, et essentiellement le plus grand de tous les philosophes tenant enseignement à Bagdad, c'est-à-dire Abu Nasr al-Farabi, l'Alfarabius des Latins, eh bien, ces gens-là, leur problème était de savoir comment proposer, à côté d'autres écoles théologiques ou juridiques, une figure du gouvernement divin qui soit à la fois fondée en nature, fondée dans la loi prophétique et profondément en accord avec la vérité philosophique, de manière à neutraliser les conflits. Conflits entre sunnites et chiites, conflits entre religions différentes. Je rappelle qu'à Bagdad, en l'an 1000, il y a 1 million d'habitants, dont une forte proportion de non-musulmans. Et donc, cette neutralisation des conflits doit être fondée, alors non pas simplement sur la loi, mais bien sur la raison. Alors, je donnerai plusieurs exemples, et la logique, au fond, de cette histoire me paraît être la suivante. Au Xe siècle, au moment où s'élaborent vraiment les doctrines platonisantes ou platoniciennes de la cité, la thèse qui va être illustrée est celle-ci. L'ordre de la cité, c'est l'ordre même de l'ensemble du cosmos. Celui qui doit diriger la cité est dans la même position que celui qui gouverne le cosmos, autrement dit Dieu, et comme Dieu, cet homme est un intellect vivant, est une intelligence en acte. Du même coup, le philosophe, je ne dirais pas l'emporte sur le prophète, mais dans la prophétie même, le philosophe et la philosophie sont ce qu'il y a de plus vivant, de plus vrai, et par conséquent de plus digne d'exercer l'autorité, la prophétie extérieure n'étant que l'habit, pourrait-on dire, l'enveloppement métaphorique de cette autorité intellective. Il reste que, bien sûr, prophétie, guidance spirituelle et philosophie ne font qu'un, de même que le gouvernement politique ne fait qu'un avec la vie intellective, on voit triompher le modèle du philosophe roi. C'est véritablement la reprise et la méditation de textes majeurs, en particulier, bien sûr, la République de Platon. La République a eu un sort considérable. On ne saurait surestimer, par exemple, le commentaire que Cavérois a fait de la République et qui nous reste dans sa version hébraïque. La République a nourri l'œuvre de Farabi de manière tout à fait évidente. C'est un des livres, pourrait-on dire, j'allais dire livre de chevet, enfin livre majeur de l'inspiration en matière de philosophie politique, comme l'a très bien vu Léo Strauss, à qui on peut renvoyer sur ce point tout naturellement. Le détail est intéressant. Pour Farabi, Léo Strauss se demandait qui est le Platon de Farabi. Bon, il répondait, c'est l'auteur des lois et de la République. Il avait raison. Pour Farabi, le gouvernant par excellence est celui qui est libre. C'est-à-dire qui n'a aucun besoin en rien d'un autre homme pour chef. Donc ce qui caractérise essentiellement le pouvoir et l'autorité rationnelle du gouvernant, c'est qu'il n'a pas besoin d'un guide. Le partage se fait entre ceux qui ont besoin d'un guide et celui qui n'en a aucun besoin. Alors pourquoi n'a-t-il besoin d'aucun guide ? C'est qu'il reçoit directement de l'intellect divin, que Farabi appelle l'intellect agent, les lumières qui lui permettent de faire passer en acte son propre intellect en puissance. Farabi a été le premier grand théoricien, après les commentateurs grecs, des doctrines de l'intellect. Et c'est à partir de cette réflexion sur les différents stades de l'intellect, que je n'ai pas besoin ici de rappeler, qu'il a conçu cette liberté du savant, liberté de l'homme intellectif, à la tête de la cité. Au-dessous de cet intellectif, appelons-le ainsi, La cité se présente, selon lui, comme une, j'allais dire, un organisme vivant assurant principalement la paix civile. En ce sens, tous les raisonnements de Farabi, qui seront repris par Nasir Toussi, par Moulla Sadra, vous verrez tout à l'heure, par tout le monde, sont des raisonnements qui se fondent sur une doctrine du droit naturel et de la menace permanente de la guerre de chacun contre chacun. Le raisonnement se retrouvera, deviendra trivial en philosophie. Les hommes ne peuvent pas vivre solitaires. Les hommes ont besoin de vivre en société, mais, hélas, les passions, les désirs, la colère et la concupiscence empêchent une sociabilité naturelle et rationnelle. Il faut donc qu'il y ait un homme prédestiné à cela qui introduise une paix organique dans le cosmos politique, exactement comme Dieu introduit une paix organique dans le cosmos tout court, dans le macrocosme. Cet homme, c'est à la fois le politique et l'homme intellectif. Et il est politique parce qu'il est l'homme intellectif. Il ne doit donc pas avoir besoin d'être guidé, puisque c'est lui qui guide, et qui guide non seulement en vue du bonheur, mais en vue de la paix sociale. L'idéal philosophique qui vient au fond contredire la réalité étant la guerre civile permanente, c'est l'idéal de la pacification par une hiérarchie rationnelle. Au-dessous de notre homme politique et intellectif, en effet, la cité se présente comme une hiérarchie, mais attention, une hiérarchie dont les degrés se diversifient selon la perfection, du plus parfait au moins parfait, et exactement comme les existants se hiérarchisent selon leur perfection. Là, le modèle est moins platonicien qu'il n'est aristotélicien, et surtout ce modèle, c'est celui du cosmos antique. Alors, c'est, sans entrer dans les détails de ce cosmos, vous savez que depuis Aristote, le cosmos est conçu comme une série de cieux. Alors jusqu'à Avicenne, il y a 8 sphères célestes emboîtées les unes dans les autres, Avicenne en rajoutera une 9e, et ces cieux ou sphères emboîtées les uns ou les unes dans les autres ont pour centre le monde sublunaire, terrestre, et pour extériorité, au-delà de ce monde clos, l'univers des intelligences immatérielles, au-dessus desquelles il y a le trône de Dieu, entouré des anges rapprochés de ce trône qui ne cesse de célébrer la louange de Dieu. Bon. Alors, cet univers clos est le modèle de la politique rationnelle en islam jusqu'à nos jours. Et je dis bien jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, jusqu'au présent. C'est un modèle qui résiste à toute espèce de modification de l'histoire des sciences. Ce point, je dois le rappeler. Et c'est à la condition de ce cosmos que la politique peut être une politique divine. L'expression est très intéressante. Siyasa ilahiya, politique divine. Ça ne veut pas dire que Dieu est une sorte de despote qui intervient en permanence dans les affaires. Ça veut dire que la science divine se matérialise, pourrait-on dire, s'incarne dans cet ordre cosmique, ordre fini, dominé par le monde des intelligences, et qui descend jusqu'à la matière. Et la politique humaine est le reflet, l'imitation, l'image de cette politique divine, de cette cosmopolitique. Je cite simplement un passage qui est tiré d'un ouvrage qui s'intitule « Le gouvernement politique de Farabi », qui vous en dira plus que tout ce que je peux gloser. « C'est ainsi que les diverses parties de la cité sont liées les unes aux autres et sont en parfaite harmonie, étant hiérarchisé selon le degré de priorité ou de postériorité, c'est-à-dire ceux qui sont plus parfaits, qui ont le statut des causes, et ceux qui sont moins parfaits, qui ont le statut des causés. Il en va comme des êtres naturels, comme des êtres qui commencent par le premier, Dieu, et qui finissent à la matière première par les 4 éléments, l'air, la terre, l'eau, etc., bon, le feu. Le gouvernant de cette cité ressemble à la cause première, à la cause de l'existence des autres existants. Donc le gouvernant politique fait exister la cité, exactement comme Dieu fait exister le monde. Les rangs des existants se lient peu à peu, de sorte que chacun d'eux est gouvernant et gouverné, pour finir aux existants qui n'ont aucun pouvoir gouvernemental, mais sont soumis, n'existant que par ce qui est autre que la matière et les éléments. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle parfait, sur lequel au fond on pourrait s'arrêter, va être travaillé par une division que j'annonçais plus haut, qui est la division entre deux sortes d'hommes déjà. L'homme qui conçoit les principes politiques, qui conçoit ce qu'est le bonheur et qui conçoit donc clairement et distinctement les conditions pour y parvenir. Cet homme-là, c'est l'homme de l'intellect, précisément. Et bien, il y a l'homme qui les imagine, mais qui ne les conçoit pas de manière intelligible. Ça, c'est le commun des fidèles. Et Farabi introduit une distinction évidemment très délicate, et en tout cas très problématique pour des musulmans, comme d'ailleurs pour d'autres, la distinction entre ceux qui intelligent, et qui sont dans la vérité, et ceux qui accueillent dans leurs âmes, par l'imagination, ces mêmes principes, et cela, dit Farabi, ce sont les croyants, Mokminoun. Donc, le croyant, qui est quand même la figure centrale de l'élu dans l'élément coranique, enfin, être un croyant, c'est véritablement pouvoir accéder au salut. Le croyant est en réalité une figure de deuxième ordre, puisque c'est l'homme de l'imagination. C'est que le croyant croit non pas parce qu'il comprend, mais parce qu'il est persuadé par les miracles. Je ne m'appesantirai pas sur cette distinction, mais elle est absolument capitale. La philosophie en islam a posé cette distinction, qu'on retrouvera en Occident chez des lecteurs de ces auteurs. Pas besoin de dire que Spinoza en dépend grandement. La distinction entre la religion du miracle et la religion de l'intellect. Un autre auteur que Farabi, que je cite de mémoire, dit très clairement « Les croyants sont persuadés par un seul miracle, mais l'homme de l'intellect ne serait pas convaincu par tous les miracles du monde. » Et il donne d'ailleurs l'exemple du bâton de Moïse, le bâton transformé en serpent, qui persuade n'importe quel fidèle, mais qui ne saurait convaincre aucun homme digne de l'appellation d'intellectif. Il y a donc bien une division entre la croyance dans l'imagination qui est justifiée, hein, qui n'est pas du tout médiocre et méprisable, qui est fondée sur l'ordre du miracle, et la croyance et la conviction par l'intellect. Cette division est si importante qu'elle crée une scission qui, à mon sens, ne peut absolument pas s'effacer. Il y a vraiment une religion pour les ignorants et il y aura une religion des savants. En attendant, donnons quelques exemples des cités imparfaites pour Farabi. Pour Farabi, on a compris ce qu'était la cité parfaite, c'est la cité harmonieuse, c'est vraiment la cité de la République, celle qui est dirigée par le philosophe roi. Les cités imparfaites, aucune surprise, ce sont des cités de l'ignorance, comme il les appelle, ce sont aussi les cités corrompues, ce sont enfin les cités de l'erreur. Alors je laisserai les cités corrompues, c'était de l'erreur, pour ne pas abuser de votre attention, mais je montrerai simplement que les cités de l'ignorance correspondent à des catégories platoniciennes bien connues. Parmi donc ces cités ignorantes, qui sont des communautés politiques, il y a les cités fondées sur la richesse et le développement des richesses. Ce sont des cités où le chef politique a un programme d'action fondé sur le développement de l'agriculture, de l'élevage, dit Farabi, de la chasse, du pillage, qui est une grande création de richesses, et où les valeurs suprêmes sont le clientélisme et le trafic. La cité de richesse. Ensuite, il y a les cités de plaisir. Ce sont les cités de la bassesse, communauté de bassesse. Elles sont fondées sur l'usage des plaisirs. Bon, donc l'usage des plaisirs fonde ces cités où on ne se soucie que de se donner de la jouissance. C'est, dit Farabi, la cité joyeuse. Bon. Il y a ensuite, bien, on s'y attend, la cité des honneurs, fondée sur le goût de l'honneur, de l'acquisition des signes extérieurs, des dignités, etc., etc. Ensuite, il y a bien sûr la cité fondée sur le goût du pouvoir, cité de la domination. Et enfin, il y a la cité démocratique. Ah, c'est la reprise de Platon. La cité, dit-il, des hommes libres, c'est-à-dire la cité anarchique, la cité fondée sur le principe détestable de la liberté. Donc, cinq grands principes d'ignorance, richesse, plaisir, honneur, pouvoir et liberté. Je tiens à dire, pour montrer que tout ceci n'a pas seulement un intérêt documentaire, qu'un des travaux les plus importants d'actualisation, pourrait-on dire, de cette pensée, est dû à un des derniers, enfin, au président de la République d'Iran qui a précédé l'abominable Ahmadinejad, c'est-à-dire M. Khatami, qui est l'auteur d'une thèse sur toutes ces questions, qui en a fait vraiment son modèle de gouvernement, qui contredit entièrement la réalité, mais qui est tout de même son modèle idéal. La thèse se trouve chez Vrin, à Paris, qui maintenant ne vend plus seulement Émile Breillet, mais également M. Khatami. Comme ça, la vie. Bien, alors revenons au partage, à la scission même entre philosophes et croyants. On voit bien que dans la suite de cette histoire, il était absolument impossible de maintenir à ce point-là et sous cette forme-là, la thèse selon laquelle le savant est supérieur au prophète législateur, sans ménager quelque chose comme une explicitation à la fois théologique et philosophique. Alors c'est ce point-là qui est peut-être moins bien connu que ce qui précède et que je voudrais indiquer. D'abord, pour bien situer les choses, savoir que un très grand nombre de philosophes, Farabi lui-même, sont chiites. C'est-à-dire que pour eux, la question du guide, la question de celui qui maintient l'héritage prophétique est une question centrale. C'est la question de l'imam. Imam, ça veut dire guide. Évidemment, déjà, cette expression les rapproche du platonisme et de la philosophie néoplatonicienne aussi. Mais surtout, ils ont en commun avec tous les autres chiites de considérer que l'héritage prophétique n'est pas simplement la gestion du pouvoir temporel, ça consiste pas seulement à mener les armées, là je cite de mémoire, ça consiste pas seulement à gérer les ministères, ça n'est pas simplement un pouvoir dynastique, c'est une mission spirituelle. Alors la politique chiite ne peut être qu'une politique spirituelle. Et donc ils admettent volontiers que le gouvernant doit être un savant, puisque selon eux, le savant des savants, le savant par excellence, le modèle moderne, si j'ose dire, du savant, après les anciens, après Platon, Aristote, c'est Ali ibn Abi Taleb, le gendre du prophète, qui est considéré comme le savant absolu, celui qui enveloppe, voilà, dans son moi tout l'univers et qui sait jusqu'à la moindre chose la plus infinitésimale, et qui serait d'une certaine manière une sorte d'hyper-philosophe cosmique. Donc ça ne les choque pas, ça, que le savant soit d'une certaine manière, sinon supérieur, du moins plus profondément en accord avec la vérité que le prophète dans sa mission extérieure, dans sa mission exotérique. Mais tout de même, tout l'islam se rassemble sur ceci, que la prophétie est l'alpha et l'oméga de la vérité. Et donc il faut articuler savoir et prophétie de telle sorte qu'il n'y ait pas d'atteinte à la mission prophétique. La solution à la fois philosophique et au fond interne au monde chiite, qui a véritablement porté la philosophie massivement en lui, la solution est la suivante. Le savant est supérieur au prophète législateur, il n'est pas supérieur au prophète en soi, parce que le prophète a tous les niveaux en lui, depuis le niveau inférieur, qui est le niveau législateur, jusqu'au niveau supérieur, qui est celui du philosophe. Et le savant est supérieur au prophète législateur parce qu'il est postérieur au prophète législateur. La prophétie législatrice, qui convient admirablement à la religion du vulgaire, c'est la religion du passé. La religion de l'avenir, c'est la religion philosophique, c'est la religion du savant. Et donc, de même que les prophètes ont vu leur cycle clos par Mahomet, de même les imams et les philosophes qui succèdent à Mahomet ont devant eux tout l'avenir, du moins jusqu'à la fin du monde, et eux, ils ne légifèrent pas, ils maintiennent la législation, ils la laissent à son niveau, on va voir lequel, mais ils dépassent ce niveau par un régime intellectif et spirituel supérieur. Alors, je prendrai pour illustrer cela deux ou trois exemples bien ultérieurs à bien postérieurs à Farabi et à la falsafa, et j'en emprunterai d'abord, je présenterai le modèle qui s'élabore à partir de Nasser Toussi et des philosophes ismaéliens, je n'entre pas dans les détails, de ces niveaux du prophète qui permettent un tel jeu entre savoir et prophétie législatrice. Le prophète est présenté comme lui-même comme une totalité vivante qui est constituée de trois grands niveaux. Un niveau qui correspond à ce bas monde, qui est le niveau de la législation et qui est le niveau des commandements pratiques. Les commandements pratiques valent ce que valent ce bas monde. Et quand on dit ce bas monde, vraiment l'expression de « dunya » en arabe signifie ce monde vil, vraiment c'est la terre vaine, pour parler comme le poète, eh bien cette terre vaine, elle doit passer, elle a un commencement dans le temps, elle est créée, et elle a une fin dans le temps, c'est le jugement dernier, et le retour d'ailleurs du 12e imam, et de Jésus, et de l'ensemble des prophètes, donc, et le jugement qui suit. Donc la vie morale, la sagesse pratique, et par conséquent la politique, sont à la fois nécessaires et d'une certaine manière précaires. Et surtout, cette politique est essentiellement conçue comme une éducation. Les commandements pratiques sont des commandements éducatifs, et on cite sans cesse une parole attribuée à Mahomet, « Mon Seigneur m'éduque, mon Seigneur c'est-à-dire Dieu, mon Seigneur m'éduque, combien excellence est excellente est donc mon éducation. » La morale est une pédagogie, et on retrouve toute la pédagogie platonicienne qui va s'engouffrer dans tous les réseaux de la purification morale, de l'éducation morale, et de la, pourrait-on dire, de l'élevage de l'âme. Ensuite, il y a niveau de la science. La sagesse cognitive est le deuxième grand niveau des, pourrait-on dire, constitutifs de la vie prophétique, et ça, c'est le propre des savants et des philosophes. Donc, à ce deuxième niveau, le philosophe est prophète, et le prophète est philosophe. Mais attention, pour sauver, si j'ose dire, les apparences, mais plus que ça, pour fonder le concept même de la science, on soutient que ce sont les prophètes et les imams qui enseignent la science aux philosophes, et on retombe bien sûr sur ce modèle qui est aussi apparu en Occident, hein, Moïse a enseigné la philosophie à Platon, là d'ailleurs on a aussi Moïse a enseigné la philosophie à Platon, et avec Moïse, Abraham avant lui, et Jésus et Mahomet. Voilà, les quatre grandes figures sont les véritables enseignants majeurs, et avec eux bien sûr tous leurs imams. Je ne peux pas me développer ça, mais Moïse, pour nos auteurs, a des imams, le premier étant Aaron, qui est justement porteur de la science. Et Abraham a aussi un imam, qui est Ismaël. Il y a Isaac et Ismaël. Isaac est successeur, et Ismaël est imam. Jésus a un imam, qui est Simon-Pierre, etc. Bon, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, troisième niveau, la mystique. Troisième niveau, la mystique. Et là, à ce niveau-là, on est hors politique. Le troisième niveau est le niveau où le prophète manifeste en sa personne l'élite des amants de Dieu, je cite, et de ses amis véridiques. Et là, on s'appuie sur un verset du Coran qui fait scandale, en particulier aujourd'hui, chez les, chez les frères musulmans, par exemple, le verset 53 du sourate 41, « Nous leur ferons voir nos signes dans les horizons et en leurs âmes, jusqu'à ce que se manifeste clairement à eux qu'il est le réel, Dieu. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit de toutes choses témoin ?» Premier verset. Deuxième verset, verset 54 de la sourate 5, « Dieu amènera un groupe qu'il aimera et qui l'aimera. » Dieu amènera un groupe. Donc, ça n'est pas tous, c'est un groupe. Et donc, ce troisième niveau, appelons le niveau de la mystique d'amour, ne concerne pas la politique, le niveau du commun, tous, ne concerne pas la science, quelques-uns, mais concerne ce qu'on appelle l'élite de l'élite, mais élite en français traduit très mal, le quelques-uns de quelques-uns, khas al khwas, et ce groupe, c'est ceux que Dieu aime et qu'il aime. Alors, c'est très important, parce que ce degré-là est celui, et là on rejoint des choses qu'hier Catherine Clément mentionnait dans le cadre de l'hindouisme, j'aurais aimé en parler avec elle, c'est le point, non seulement hors politique, mais où se lèvent, disent nos auteurs, les voiles du moi. Le moi disparaît à ce niveau-là. Le prophète devient celui que l'on doit imiter en ceci que, à ce niveau mystique, Dieu apparaît, on a la théophanie intégrale de Dieu, selon les attributs de la gloire et de la sainteté, disent nos auteurs, et le fidèle, en l'occurrence le prophète ou tous ceux qui l'imitent, s'éteint à soi-même. Il s'éteint à soi-même, il disparaît à soi-même, et en même temps, il est. Alors c'est là la différence peut-être avec les auteurs de l'hindouisme, il est rétabli dans l'être par Dieu, Dieu le rend permanent par l'attribut de la beauté. Tout à fait capital, parce que le sommet de la prophétie, c'est la manifestation dans le miroir devenu absolument nu de l'humanité de la beauté divine. Alors, on peut dire que la foi est mystérique dans le premier degré, le degré du vulgaire, parce qu'elle est fondée sur l'imagination qui constitue l'ordre du politique autour de la prophétie législatrice. La foi devient vision au deuxième degré, parce qu'elle est contemplation directe et science. Et alors elle devient amour mystique au troisième degré. Et ces trois degrés se récapitulent, j'allais dire, dans la légende de Mahomet, c'est-à-dire dans un événement qui est capital pour la conscience de nos auteurs, qui est la fameuse ascension céleste du prophète à partir de Jérusalem jusqu'au trône de Dieu. En effet, chaque étape de cette ascension céleste correspond à l'un de ses pouvoirs, ou à un de ces degrés. Et comme on le voit, le degré de la science n'est pas le dernier degré, il n'en est que le deuxième, avant le degré de la mystique, et on comprend en tout cas, et c'est ça que je voulais montrer, que le degré de la politique, qui était si central chez Farabi, se relativise, bien sûr il est très important, et même on va voir qu'il, dans le détail, il est un programme assez parlant, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire assez effrayant, mais toute la question est de savoir s'il est le premier ou le deuxième ou le troisième, or il n'est que le premier degré. Et donc on entre dans une situation qui est, je crois encore, celle de la raison islamique, qui est une division et en même temps, j'ai envie de dire, une réversibilité permanente des termes. À la fois le prophète législateur est tout entier le prophète et la raison législatrice est tout entière la raison gouvernante, et de notre côté il ne l'est pas. Alors cette logique totalement contradictoire, j'ai pas le temps de l'exposer, elle est absolument fondamentale. La logique philosophique de nos auteurs n'est pas une logique du ou bien, mais de l'unité, non pas des contraires, mais des contradictoires. Il est contradictoire que le mystique et le législateur est une autorité ensemble, eh bien c'est ça qui est le vrai. Alors ça c'est quelque chose que j'ai du mal à rendre sensible, mais je vais essayer d'illustrer, au moins, par des exemples d'ailleurs, qui sont eux-mêmes platoniciens. En effet, au niveau législatif, en bas, au premier degré, le législateur doit avoir alors tous les pouvoirs que vous rencontrez aujourd'hui dans tous les programmes qui, de ce point de vue, n'ont pas changé, les programmes de la prescription législatrice. D'abord, il est caractérisé, j'ai dit, par certains signes miraculeux de Dieu, ça nous l'avons vu, et il énonce une loi religieuse qu'on appelle une charia. Le but de la charia, c'est d'abord des pratiques d'obéissance et des pratiques du culte. Et donc, il est bien évident que à ce niveau-là de la religion rationnelle, les hommes pratiquent les obligations, respectent les obligations en vue d'un premier niveau d'éducation. Et on peut dire le législateur les réveille de leur sommeil d'ignorance. Je plaisante pas, l'expression est exactement celle-là, souvent. Le législateur, par exemple, prescrit des pèlerinages pour les sortir de la quiétude de leur maison, de manière qu'ils n'oublient pas Dieu, qu'ils se remémorent le jour futur où leur tombe, ou de leur tombe, ils vont ressusciter et se précipiter vers leur Seigneur. Le législateur leur prescrit les pratiques du culte qui les rassemblent, comme la prière collective du vendredi. Le législateur leur prescrit, bien sûr, la prière, qui est un rappel à l'humilité, les sacrifices pratiqués dans le temple, etc., etc. Pour l'essentiel, le modèle politique, à ce niveau-là, c'est le modèle du voyage. Ça n'est pas du tout un modèle statique, c'est un modèle dynamique. Il est dit de manière très significative, c'est une formule fréquemment utilisée, la cité est une caravane. Oui, c'est pas un lieu fixe, c'est un lieu, enfin, ça n'est pas un lieu, c'est un mouvement, c'est une collectivité en mouvement, en chemin. C'est une collectivité de voyageurs en chemin vers la vraie vie. Et on voit donc bien que la charia a un statut ambigu. À la fois, elle est absolument obligatoire et contraignante, et en même temps, elle n'est que provisoire, puisqu'elle est simplement la mise en ordre d'une caravane en vue d'aller dans une autre vie, qui est la seule vie réelle, la vie future. Et l'étape ultime, c'est une étape que les philosophes, d'ailleurs, ont interprétée de manière, à leur manière, c'est l'étape de la vie immatérielle de l'âme, c'est le moment où l'âme est séparée de son corps. Alors, on voit donc très bien comment, d'ailleurs, l'inspiration platonicienne du Phédon, qui est capitale, le Phédon est sans cesse lu. Il y a un très grand nombre de textes sur la mort volontaire, qui sont très importants. Aimer la mort, vouloir la mort, reprenant littéralement Socrate. Il faut aimer la mort. Il faut aimer la mort parce que c'est la séparation de l'âme et du corps. Il faut mourir à ce monde. Bon, ça n'a rien à voir avec toute forme de suicide ou bien entendu. Enfin, il faut aimer la mort. Les caravanes, donc, voyagent vers Dieu. Elles se succèdent. Certaines sont proches dans le temps, certaines sont lointaines. Les prophètes sont les chefs des caravanes. Et donc, il faut élever les corps, éduquer les corps. Les corps, vous avez l'expression fréquemment utilisée, sont des montures. Les corps sont des montures, des dromadaires, des chevaux. Et il ne faut pas tuer la monture tant qu'on n'a pas achevé le voyage. Les réalités donc de ce monde sont à la fois inférieures, puisqu'elles expriment le lien de l'âme avec le corps, et donc elles sont méprisables, et en même temps elles sont très importantes, parce qu'elles préparent le retour. Le concept fondamental ici, c'est le retour. Et le retour est défini par le retrait. On se retire du monde. Le retour, c'est le moment où l'on vit en état de célibat, littéralement. Hein ? Ici, il faut se marier. Ici, il faut engendrer. Ici, il faut conserver l'espèce et la progéniture. Vous allez voir où ça mène. Et en vue d'être seul avec le seul là-haut. Voilà. Alors, Dieu crée, justement, tout ce qui est nécessaire à cette vie provisoire. La nourriture, les demeures, les vêtements pour la survie de la caravane. Il meuble les maisons provisoires, il permet de creuser des canaux pour irriguer. Et surtout, Dieu crée les femmes. Les femmes permettent les rapports sexuels. et les serviteurs aussi. On couche avec les femmes, on couche avec les serviteurs. Alors, on perpétue ainsi l'espèce. Et Dieu a prédisposé un appétit sexuel qui conduit à cette pérennisation. Vous voyez que là aussi, les contradictoires sont simultanés. À la fois, la vie solitaire est meilleure que la vie sociale, ça toujours. Alors, les philosophes ont décrit des textes sur la vie solitaire en pagaille, et si vous voulez, on pourrait développer ce point. Mais d'un autre côté, en vue d'atteindre, au fond, cette vie solitaire paradisiaque, il est absolument nécessaire de privilégier son contradictoire, c'est-à-dire la vie où l'on use des organes qui sont adaptés à la perpétuation de l'espèce. D'autre part, toujours dans cet élément, l'homme, bien sûr, préfère l'isolement et la solitude, mais la loi, la charia, maintient la propriété, les possessions légitimes, etc., etc. De là, une justification philosophique des grands commandements de l'islam qui, en elle-même, est très intéressante. Les littéralistes, appelons-les ainsi, j'aime pas cette expression parce que j'aime bien, moi aussi, malgré les apparences, la lettre, et les littéralistes, en l'occurrence, ce sont pas du tout des gens qui soutiennent la lettre, mais qui soutiennent en réalité un niveau tout à fait grossier d'interprétation. Donc ne les appelons pas ainsi, revenons là-dessus. Disons, les courants les plus fréquemment connus aujourd'hui, par exemple les Hanbalites, les Wahhabites, les courants du sunnisme politique radical, ont exactement la même conception de la charia que les philosophes, mais ils ne la justifient pas du tout de la même manière. Le grand partage, c'est que la philosophie, et singulièrement donc les auteurs après le Nassir Toussi au XIIIe siècle, justifie les commandements précisément par cette idée de mouvement, de caravane, de passage. Il s'agit de protéger les pèlerins contre tous les embarras du chemin. Alors, le jihad, par exemple, le jihad contre les infidèles, leur mise à mort a pour finalité d'empêcher que ceux qui refusent la vérité ne troublent les pèlerins. Alors, c'est très important, ça n'est pas sympathique du tout, ça renvoie directement, alors non plus à la République, mais aux lois, il est interdit de refuser la vérité. Non seulement il est interdit de refuser la vérité, mais il est interdit d'être athée, parce que l'athée mérite la mort, puisqu'il se la donne à lui-même. Dieu n'est autre que l'acte même d'exister, donc celui qui nie Dieu nie l'être. Et d'ailleurs, il s'ensuit des raisonnements qui sont à peu près ceux qu'on retrouve chez Locke et chez John Locke dans le traité sur la tolérance. Ce serait très intéressant de comparer. L'athée est exclu de la collectivité parce qu'il se nie lui-même. Il se nie lui-même. Et en niant Dieu, il se condamne lui-même au non-être, et donc on n'a qu'à suivre son raisonnement et le mettre à mort. Les infidèles, c'est la même chose. C'est ceux qui refusent la vérité. Donc on doit les tuer. La mise à mort des libertins et des prostituées est également justifiée par le désordre manifeste qui est causé par les déviants. Ils empêchent ceux qui voyagent vers le voisinage de Dieu de voyager tranquille. Il faut les tuer comme on chasse des embarras. Le vol et le brigandage, ça va de soi. Puisque les voleurs et les brigands retirent leurs moyens de vivre, bien sûr, aux pèlerins de la caravane. Même chose pour la fornication, la pédérastie et autres crimes contre les bonnes mœurs. Parce que tout ça. Alors voilà, c'est là où est au niveau de la législation, il faut faire l'éloge du mariage et de la procréation. Alors même qu'on vise une vie où il n'y aura plus ni mariage, ni loi, ni procréation. Mais en attendant, l'homosexualité et l'adultère, fornication, c'est-à-dire le rapport sexuel illégal, doivent être très sévèrement punis, puisqu'ils portent atteinte, par leur exemple, à la reproduction de l'espèce. C'est pas du tout pour des raisons morales, c'est simplement parce qu'on ne fait pas assez d'enfants. On ne fait pas assez d'enfants, et il faut en faire toujours davantage. Alors, qui a dit ça? Ben, ce n'est pas du tout Mahomet. Celui qui a dit ça, c'est le divin Platon. Il a dit ça dans les lois, et le divin Platon est l'autorité pour justifier la charia, à ce niveau-là. Pourquoi on se réfère à Platon ? Parce que Platon est un anti-politique. En quel sens ? Platon est un anti-politique parce que, contrairement aux philosophes, en particulier ceux de l'école de Bagdad, qui considéraient que la religion et la politique, c'était la même chose, Platon, dans les lois, a parfaitement compris que la religion est supérieure à la politique, que le législateur religieux est celui qui guide la politique, et que la politique n'est qu'un instrument, un moyen au profit de la, au service, disent-ils, de la religion. La religion commence là où la politique, le mouvement de la politique finit. La loi religieuse est un mouvement dont le principe est le terme final de la politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la charia authentique commence là où la politique finit. Donc à la fois la religion instruit la politique, et donc tout ce que je viens de dire, là, les horreurs de la charia, sont justifiées par la position du législateur religieux qui d'une certaine manière surplombe la philosophie politique, mais d'un autre côté, la partie politique, celle qu'on vient de voir, qui est sinistre, n'est qu'un moment tout à fait passager et inessentiel, encore les contradictoires, et la loi religieuse a sa vérité hors du politique, parce que l'éducation a sa vérité hors, disons, des méthodes contraignantes. Et donc, à la fois la politique ne doit jamais désobéir à la loi religieuse. Alors ça, c'est la République islamique d'Iran. La politique est soumise à la guidance religieuse, mais d'un autre côté, la loi religieuse commence dans sa vérité après la politique. Et pour conclure, je vous montrerai alors à quel point cette contradiction est vivante dans une dernière référence platonicienne qui, elle, alors, nous sort de l'horizon un peu sinistre des lois, plus sinistre de cet usage des lois. Pas, certainement pas des lois, mais enfin, tout cas, cet usage, je suis prudent, pour montrer comment il y a évidemment là une contradiction, elle ne peut qu'éclater, vous avez vu la place supérieure de la mystique, bon, je n'y reviens pas, eh bien, la cité éclate, elle éclate en deux. Il y a la cité de la législation parfaite, qui au fond se parachève dans le triomphe de la charia, et puis il y a la cité qui n'a pas besoin de charia, qui est la vraie cité platonicienne. Et j'emprunterai cet exemple, je me contenterai d'ailleurs de lire simplement quelques minutes des passages qui vous parleront, je crois, à un commentaire dû à un philosophe chiite du XVIIe siècle iranien qui s'appelle Qazi Saïd Qummi, qui est mort en 1690 et qui a fait un commentaire de Plotin. Plotin, je ne peux pas m'y attarder, est devenu un best-seller en Iran au XVIIe siècle. Bon. On a au moins 150 manuscrits de Plotin, sous des noms divers. Ils ne savent pas toujours que c'est Plotin. Ils l'appellent le sage grec, ils l'appellent Aristote souvent, mais c'est Plotin. Et dans un grand commentaire du traité 38 de Plotin, à un moment, Plotin évoque la Terre céleste, et il évoque cet endroit qui est la Terre intelligible, qui est le monde intelligible où sont tous les archétypes éternel des choses, et notre Qazi Saïd Qummi, un très très grand philosophe de l'époque d'Ispahan, dans son commentaire mobilise tout un ensemble de références, et il finit par présenter, vous verrez le passage congruent, pour l'expliquer, un texte, il dit voilà, ce texte de Plotin dit la même chose que ce que dit Ibn Arabi. Ibn Arabi qui avait été surnommé le fils de Platon. Alors c'est un texte tiré des Conquêtes spirituelles de la Mecque, de le grand ouvrage en 50 volumes d'Ibn Arabi, c'est dans le tome 2 des Conquêtes spirituelles de la Mecque, et où Ibn Arabi essaye justement de décrire ce monde intelligible qui est une cité céleste. Et voici entre autres ce qu'il en dit, qui est recopié tel quel par notre philosophe. Et vous verrez du coup que la cité n'a plus ici du tout le même sens. L'un des savants, des sages, des philosophes, parle d'une chose que je connais d'un témoignage direct. Il déclare, en elle, dans cette terre céleste, qui est la terre intelligible, et qui est la cité intelligible, « J'entrai un jour en une assemblée, voilà, le rassemblement collectif, qui se nomme l'Assemblée de la Miséricorde, Majlis al-Rahma. Je ne verrai pas une assemblée plus étonnante que celle-là. » Puis ensuite, il explique, « J'entre dans cette assemblée, et alors m'apparaît une manifestation divine, c'est un homme divin, une figure angélique peut-être, et elle ne m'attire pas hors de moi-même, autrement dit, je ne tombe pas dans les pommes, pour parler clairement. En effet, dans ce monde intelligible, dans cette terre intelligible, si les apparitions surviennent, c'est tout différent d'ici. Là-bas, elle ne nous tire pas de nous-mêmes, elle ne nous cache pas la vue directe que nous avons du monde ambiant. Autrement dit, il n'y a pas de contradiction entre l'ascèse, l'évanouissement à soi, tout ce dont on parlait des hindous, et la vie consciente, loin de là. Là-bas, c'est une ascèse qui se passe, pourrait-on dire, en union avec la vision et la parole. Alors du coup, j'ai pu me rendre compte de la manière dont était organisée cette cité. En elle, il y a les jardins, les paradis, les animaux, les minéraux, ce dont seul Dieu connaît le nombre. Et toutes les réalités sont dotées de logos, et toutes sont vivantes. Donc on a une cité idéale, où tout, depuis les tables jusqu'aux chaises et jusqu'aux êtres humains, ou les animaux, est doué de logos, littéralement. C'est-à-dire à la fois de parole, d'intellect, de raison et de vie spirituelle. La vie de tout vivant est une vie douée de logos. Évidemment, ça change tout par rapport à la cité terrestre, puisque là, il n'y a plus des ignorants qu'il faut guider dans la caravane et des savants qui les guident avec la trique de la loi. Pas du tout. Les spirituels là-bas recherchent la concorde avec quiconque est là-bas. Ils ne sont jamais en conflit les uns avec les autres. Aucun n'est en conflit avec son voisin. Aucun ne s'oppose à son voisin, mais tous se réjouissent de la présence de tous. Cela parce qu'ils sont nés d'une source unique, leur subsistance et leur substance est unique. Donc le monde intelligible, c'est la cité où règne l'un. L'un triomphe, non pas ici-bas, mais dans le monde intelligible. Chacun d'eux voit son soi dans le soi de son voisin. Donc, il n'y a d'échappée hors du politique autoritaire, si j'ose dire, que si le soi ne fait qu'un avec le soi du voisin, mais se réfléchit dans le soi du voisin. Car les choses qui sont là-bas sont lumineuses et brillantes, il n'y a là aucune chose ténébreuse, rien de rude, chacun est lumineux et manifeste pour son voisin, c'est la cité de la transparence. D'aucuns pourraient dire que ça s'appelle l'enfer. C'est la cité de la transparence. Alors évidemment, c'est la cité de la beauté. J'ai vu en ce monde une terre d'or rouge flexible, en laquelle tous les arbres sont en or, leurs fruits sont en or. On cueille les pommes des arbres, évidemment, c'est les hespérides. On les mange, on prend plaisir à leur goût, et leur parfum est d'une bonté indescriptible, telle qu'en sont incapables même les fruits du paradis. Alors que dire des fruits de ce bas monde ? Le corps, la figure et la forme sont en or. La forme, la figure sont comme la forme et la figure des fruits qui sont en notre monde, mais ils ont des saveurs diverses, et dans ces fruits, il y a une forme étonnante, une parure de beauté sensible que l'on ne saurait imaginer. Et il dit, tout ça correspond à ce que dit Plotin, et Plotin, il s'appuie sur Platon, voilà la traduction arabe de Plotin que je traduis, puisque leur regard n'est pas le fait des yeux corporels périssables qui tombent sur les surfaces des corps aveugles, mais leur regard est le fait des yeux intellectifs spirituels qui rassemblent dans la sensibilité unique la totalité des puissances qui appartiennent aux cinq sens, avec une puissance sixième et singulière. Mais le sixième sens se suffit à lui-même, là, sixième sens, c'est l'intellect unifié rassemblant. Elle est libre de toute immersion dans les organes charnels, et notre philosophe conclut, et moi avec lui, Dieu est le plus savant et le plus sage. Merci.